Jean Lhermier, on vous retrouve pour de l'opéra, My Fair Lady, que vous montez à l'Opéra de Lausanne.
Oui, une comédie musicale que j'avais montée il y a quelques années, justement précisément à l'Opéra de Lausanne, que nous avions repris à l'Opéra de Marseille, et qui là est complètement avec une nouvelle distribution, un spectacle pour les fêtes. C'est une œuvre qui est tirée, c'est une comédie musicale qui est tirée d'une pièce de Georges Bernard Shaw qui s'appelle Pygmalion, et qui était sur mon bureau depuis longtemps. J'étais très intrigué par cette pièce-là, et quand Éric Vigier, le directeur de l'Opéra, m'a proposé de me pencher sur cette œuvre-là, j'ai foncé, parce que je voyais le lien dans le livret de la comédie musicale avec la pièce, qui est très fidèle, enfin, le lien est très très fidèle, et que c'était une façon de à la fois travailler avec des chanteuses et des chanteurs, ce que j'adore, et puis de faire un petit peu de théâtre avec eux, parce qu'il y a beaucoup de scènes parlées en fait dans cette œuvre.
Et justement, comment vous fonctionnez par rapport au théâtre? L'opéra, il y a quand même cette dimension vocale importante, mais en même temps, vous mentionnez la partie parlée. Quelle est votre approche avec les chanteurs, comédiens?
J'ai tendance à les considérer exactement comme des comédiens et des comédiennes, c'est-à-dire de travailler vraiment sur les rapports. Alors, ils n'ont pas forcément... Ils ont toutes et tous des pratiques différentes du théâtre et de la voix parlée. Parce que souvent ils sont habitués au lyrique, c'est un autre placement de voix, c'est une autre technique. Donc là, il ne s'agit pas d'abîmer leur outil, leur instrument, mais néanmoins de raconter les scènes, c'est-à-dire de revenir sur les enjeux, sur les rapports, et puis d'essayer de bien raconter les scènes avec eux. Donc là, je fais quasiment exactement comme avec des actrices et des acteurs de théâtre. Et puis eux, ils ont la chance d'avoir cette chose qui fait que on sort de fait de tout réalisme, c'est qu'il y a des moments où ils chantent. Et que ça, moi, j'adore, parce que c'est une chose que je n'ai pas forcément au théâtre. C'est pour ça que les textes classiques m'intéressent, parce que c'est un peu une autre langue, et puis qu'on essaye de rendre en audible aujourd'hui. Et que là, c'est ce décalage-là, ce déplacement-là, il est un peu du même ordre. C'est-à-dire, comment on trouve la vérité quand on est en train de chanter, qui est une chose qui n'est pas objectivement naturelle, parce que je ne vais pas faire mes courses en demandant à la vendeuse ou au vendeur en chantant. Ouais, peut-être ça changerait le monde, ouais, ou ça changerait des choses, mais avec la voix que j'ai, il vaut peut-être mieux pas, parce que je ne suis pas sûr de ce qu'on me donnerait. Mais voilà, de blague à part, c'est vrai que c'est magnifique techniquement de les voir passer d'un registre à l'autre. Ça demande beaucoup de virtuosité. Et puis, on a cette singularité dans ce spectacle, ça c'était un souhait du directeur de l'opéra, Éric Vigier, qui était de jouer les textes des scènes en français et d'interpréter les airs en anglais. Puis moi, je suis pas forcément adepte de ça. Je me dis, mais pour cette œuvre-là, je trouvais qu'il y avait une pertinence, puisque la question de la langue, du langage, est questionnée dans l'œuvre de Pygmalion et de facto de My Fair Lady. Et je me disais, mais tiens, on pourrait s'amuser. Avec ça, du français mélangé avec de l'anglais, le passage d'une langue à l'autre, les accents. Puisque la petite Elisa Doolittle, qui est l'héroïne de la pièce, elle vient d'un faubourg de Londres, qu'elle a un accent à couper au couteau et que personne ne la comprend. Enfin, un peu, ouais, c'est le cercle rapproché, mais sinon, elle avale toutes ses syllabes, les O, elle dit des O. Oui, exactement. Et après, moi, je ne vais pas à un spectacle, je vais dire, sur la linguistique ou sur historique par rapport à la langue, et puis l'accent véritable d'un quartier à Londres, d'un quartier à l'autre de Londres. Parce qu'un public français aujourd'hui ne pourrait pas entendre ça. Donc il s'agit de le prendre comme un élément ludique de jeu, et ce qui compte principalement, c'est la courbe. C'est-à-dire le point de départ où nous, on comprend grosso modo ce que dit Elisa, et de voir, à force du travail du professeur Higgins, qui va la malmener hein, pour arriver à ses fins, que finalement elle va réussir à parler. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant dans cette œuvre-là, et qu'il y a dans l'œuvre de Shaw, l'œuvre originale. C'est que, donc, sur un pari qui se fait devant l'opéra Covent Garden, le professeur Higgins et puis un colonel qui s'appelle Pickering font le pari de dire: ok, bah, cette fille-là, on est susceptible de la faire passer pour une princesse dans une grande soirée mondaine londonienne. Paris est gonflé, hein. C'est pas du tout sûr d'y arriver. Bon, à force, encore une fois, de travail, ils y arrivent. Et Elisa va être, pour le coup, modifiée dans sa nature elle-même. C'est-à-dire qu'elle va accéder à autre chose, à travers la langue. Elle va accéder à d'autres sphères. Si ce n'est que ce qu'elle avait juste pas compris, c'est que ça n'était qu'un pari entre deux gars misogynes, en tout cas l'un, professeur Higgins, et qui n'a utilisé cette fille que comme un terrain d'expérience.
Assez fin.
Hein. C'était à manière du professeur Frankenstein. L'idée, c'est d'arriver à faire battre un cœur mort. Et que lui, son truc, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle puisse parler, qu'on puisse la comprendre, qu'elle puisse faire la blague dans une soirée mondaine. Et après, il la remet dans sa bauge, devant le pub à vendre des fleurs et dans la misère. Et que là, elle se trouve dans presque un conflit d'identité. Elle est comme apatride d'avoir perdu ses origines, sa langue, son réseau, ses contacts qui ne la reconnaissent plus. Et elle n'a pas les contacts et les réseaux pour régater dans les hautes sphères. Donc tout d'un coup, elle est dans une espèce de nébuleuse, de limbe.
Zone grise.
Une zone grise où elle n'est plus ni d'un camp ni dans l'autre. Et que là, il y a quelque chose de bouleversant, c'est ce personnage qui va apprendre par l'expérience, parce qu'elle pensait à un moment donné, ils ont vécu tellement de moments difficiles dans l'apprentissage, tellement de moments de joie aussi, de peur, d'excitation. Donc il y a des choses très très fortes qui se sont parlées dans ce couple à trois entre Higgins, Pickering et puis Elisa. Qu'elle, insensiblement, il y a eu des sentiments qui sont apparus même de façon inconsciente. On ne met pas forcément des mots d'amour dessus, mais voilà, on a vécu des choses qui nous ont rassemblés. Et de voir que finalement, elle s'est leurrée et que visiblement, le professeur ne l'a utilisée que comme une souris de laboratoire, le choc est violent. Et puis, en parallèle de ça, il y aura l'apprentissage de Higgins qui, une fois que Elisa va décider de partir, va se rendre compte, un peu comme Arnolphe dans l'école des femmes de Molière, c'est dans le moment de la séparation qu'il se rend compte à quel point, finalement, il était touché par elle, et même au-delà de ça. Et il a un air sublime où il dit, mais en fait... Là, je ne peux pas m'empêcher de voir son visage, de voir sa voix, de sentir son odeur. Et il découvre le sentiment. Alors que lui, vraiment, il part de très très loin. Il a une vision, oui, à la fois ça, enfermé dans ses histoires de langage, dans ses histoires d'accent, dans les histoires de langue, de rapport aussi aux femmes en disant non, mais ça va apporter le désordre, je ne saurais pas gérer, non, il ne faut pas. Donc il se protège de tout ça dans son univers clos de son laboratoire. Et que tout d'un coup, par le départ d'Elisa, ça va le mettre dans un état impossible, parce que tout d'un coup, il va éprouver le manque. Et à travers le manque, la découverte d'un sentiment qu'il ne connaissait pas et qu'il découvre. Et qui, là aussi, est violent. Donc, ce qui me touche particulièrement, c'est pour ça que je donne beaucoup de références de cinéastes comme Ken Loach, comme Frears, comme Mike Leigh, sur un tissu social dans lequel duquel émane Elisa, qui est des gens qui travaillent dans les mines, qui font des petits boulots, qui sont toujours sous la crainte d'être attrapés par la police. Donc c'est un système de débrouille, des petits gens qui se retrouvent au pub, comme tout le temps en Angleterre, à boire une bière et à manger quelques chips au vinaigre. Et puis avec des petits moments de plaisir, de vie, et là en l'occurrence qui passe par le chant et des moments avec le chœur qui est magnifique à l'Opéra de Lausanne. Mais que cette profondeur de champ, de l'aspect social, de la condition sociale et de rapport de force et de classe de personnes qui en ont les moyens et qui, à un moment donné, il considérera qu'il l'a acheté parce qu'il a fait un deal avec le père de la fille. Moi, ça me touche tout le temps de voir ça sur un plateau, non pas pour dire c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais je pense que je fais confiance, moi, aux spectatrices et aux spectateurs, parce qu'ils vont prendre ce dont ils ont besoin dans cette œuvre-là. Et de pouvoir raconter, en essayant de le faire correctement, les rapports, les relations de classe, de force, du pouvoir de la gent masculine, de cette oppression-là, de la domesticité, me fait réfléchir, moi, sur le monde aujourd'hui. Encore une fois, permet au public et de façon ludique et avec la force entraînante de la musique, de se poser des questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là, assis dans son fauteuil pour se gondoler puis se dire « ah 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 », mais qu'il y a derrière ça, et qui est le sel ou les aspérités de la proposition de l'œuvre, qui est un monde en soi, qui est un monde en soi, et qui n'est pas si loin de celui qu'on connaît aujourd'hui.
Et à travers justement la manipulation dont est victime Elisa, et donc ces petites gens qui sont les invisibles de la société, il est aussi en filigrane question des métamorphoses d'Ovid.
Oui, il y a pas mal de références littéraires qui sont faites par Higgins, avec Keats, avec Milton. Le personnage aussi du père Doolittle, hein, qui est un alcoolique chronique qui a tabassé sa fille et qui l'exploite, qui va la vendre, hein, concrètement, en disant « mais si ma fille est chez vous et qu'elle n'a pas eu besoin de prendre de vêtements », donc il fait des sous-entendus, donc il y a du chantage, donc après ça se... Et c'est vrai que encore une fois, sous l'aspect bon enfant de la comédie musicale, des thématiques, et notamment, je pense, à celle qui est développée de façon extrêmement singulière et originale par le père d'Elisa Doolittle, qui est quand même pour moi à la fois un sombre crétin et violent. Et l'intérêt de ces propositions, c'est qu'il y a un moment donné où il rentre dans une logique. Où c'est pas simplement un caractère, mais c'est quelqu'un qui va défendre son système, le système qu'il subit, lui, où il dit ben « moi je suis un pauvre non méritant, que la société me considère comme ça ». Et il avoue que ce système lui va très bien, et il n'a pas besoin de plus. Et à un moment donné, Higgins, le professeur, l'ayant entendu, ayant été charmé par l'originalité de la pensée de ce gaillard et qui se défend, va le recommander à quelqu'un qui veut faire des bonnes œuvres de charité et qui va lui léguer une partie de sa fortune. Et là, la deuxième partie du personnage du père d'Alfred Doolittle, le père d'Elisa, qui maintenant a de l'argent et a beaucoup d'argent et qui voit très concrètement que ça a perverti tous les rapports qu'il avait avec ses camarades au pub, avec son environnement, avec celle qui était sa fiancée, qui maintenant veut se marier, vraiment... qu'en fait, c'est un cauchemar. Et il vit un cauchemar. Et en disant, mais je suis empêtré de ça. Et sa fille lui dit, bah, t'as qu'à tout rendre. Et il dit, mais c'est bien ça le problème. C'est que c'est pas si facile. Et donc, on est pris dans ces mouvements qui sont contradictoires. Et d'arriver à essayer de le montrer de la façon la plus authentique et la plus vraie, voilà, nous fait vibrer avec ces personnages. Et encore une fois, laisse des traces en nous qui nous font cheminer.
À l'instar de Molière, dont nous avons parlé récemment, c'est vraiment une fine observation de la dimension humaine, l'âme des humains.
Oui, c'est un peu mon fil conducteur. C'est vrai que je ne fais pas de politique à proprement parler. Par contre, l'être humain, les rapports entre les êtres humains, par la grâce de ces auteurs et ces autrices-là, parce que moi, je ne le suis pas, je ne sais pas écrire. Et je ne souhaite pas écrire. Par contre, de pouvoir m'appuyer sur des gens qui ont ces compétences-là et qui posent des questions, finalement, beaucoup mieux que moi, m'aide à me construire. Et par là même, m'aide, à travers les spectacles, à essayer de bien poser des questions que je mets en partage avec le public, qui, encore une fois, en fera bien ce qu'il voudra. C'est-à-dire que je pense que les gens sont assez grands et intelligents, et humain pour prendre ce dont on a besoin. Je fais l'analogie avec les enfants. Quand les enfants demandent 5 soirs de suite d'avoir la même histoire, c'est pas anodin. Et au bout d'un moment, moi je me souviens, mes petits, quand ils me demandaient ça, je disais, ben oui, bon, j'ai quand même lu hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais ça veut dire qu'ils cherchaient quelque chose là-dedans. Et que finalement, la démarche du public, quand il vient réentendre des œuvres comme celle-ci ou en découvrir une, il y a quelque chose de similaire dans cette démarche, où on vient chercher quelque chose. On ne sait pas exactement quoi. Et puis, ça ne marche pas forcément à chaque fois. Mais qu'il y a les moments où on rentre en résonance avec ce qui nous est raconté, et encore une fois, qui laisse des traces comme des sédiments et qui participe à la construction. Et en plus, c'est la force du théâtre, ça se fait de façon collégiale, avec une assemblée qui est réunie avec, en regardant dans la même direction, qui est la direction du plateau. Ouais. Et que ça, je trouve que ce phénomène d'agora et de personnes qui viennent, non pas recevoir un message, je n'ai pas de leçon à donner, il n'y a pas une vérité, je le sais par l'expérience de ma vie, mais par contre, d'ouvrir les questions et ensuite de laisser les gens faire leur travail de spectatrice et de spectateur, de citoyenne, de citoyen, par le biais de cette forme extraordinairement existentielle et nécessaire qui est le théâtre, par extension l'opéra, comme peut l'être le musée, la musique forcément. Je trouve que là, pour le coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du politique, mais qui n'est pas une politique partisane ou de camp ou de règlement de compte, mais un peu à la grecque, c'est d'essayer de se poser des questions et à les partager avec la cité.
Sur l'agora publique. Et justement, à propos d'opéra, là, vous avez dit au début d'entretien que vous avez repris My Fair Lady, vous l'avez porté à Marseille. Vous êtes allé dans plusieurs endroits pour d'autres. On songe à La Flûte Enchantée, par exemple, Nancy, enfin plusieurs opéras, même Madrid, El Teatro Real de Madrid. Vous aimez tout autant l'opéra que le théâtre. Vous êtes tout aussi en émulation, dans le plaisir.
Ouais. J'ai la chance de pouvoir. Alors très occasionnellement, hein, j'en fais pas beaucoup du tout. Il faut que ça soit des œuvres qui, pour moi, répondent à une nécessité, qu'il y ait quelque chose dans le livret qui m'intrigue, où je me dis, exactement comme avec une pièce de théâtre, où je me dis il y a un mystère là-dedans qui nécessite, enfin qui permet que je passe quelques années, quelques mois, voire des années de ma vie à me consacrer à cette œuvre-là. Et récemment, le dernier que j'ai fait, c'était le Così fan tutte à l'Opéra de Lausanne, avec un livret de Da Ponte et la musique de Mozart. Bon, c'est deux collègues de travail qui sont absolument sublissimes. Et si je les prends au sérieux et pas en disant le livret est nul, ou de toute façon ça tient pas la route, mais de se dire non, ces deux-là, ils n'ont pas fait n'importe quoi, donc prenons un petit peu au sérieux et de qu'est-ce que ça raconte. Forcément, ça nous renvoie à Marivaux, ça renvoie à La Clause, ça renvoie à Sade. Donc j'y vois un intérêt. Et il y a cette chose singulière, encore une fois, du chant, qui est quelque chose qui me fascine, de l'orchestre, de la machine de l'opéra. Là, l'opéra de Lausanne, l'équipe technique est sublime, c'est des gens qui sont hyper pros, Donc c'est un bonheur d'être dans ces grandes maisons, et vous parliez de Madrid, c'était un spectacle qui était né à l'Opéra de Paris avec l'Atelier de Lyrique, qui était dirigé par Christian Schirm, et l'Opéra de Paris, c'était l'époque de Mortier, de Gérard Mortier, immense directeur d'opéra, et j'étais venu faire ça avec les jeunes là, autour de l'enfant et les sortilèges, Ravel sur un livret de Colette, là aussi il y avait une part littéraire, et Gérard Mortier est venu voir le spectacle et a dit c'est exactement ce que je veux faire à Madrid, vous venez dans mes bagages. Il prenait la direction du théâtre et il m'a amené, et ensuite ça a été joué à Bilbao, ça a été joué dans d'autres villes en Espagne. Donc les spectacles que j'ai eu l'occasion de monter à l'opéra, on fait des petits comme ça, donc je ne cherche pas à faire carrière, c'est vraiment des histoires de rencontres, tant avec des gens qui me font des propositions et qui me font confiance, qu'avec des œuvres où je me dis, là, c'est tant musicalement que dans le contenu, il y a quelque chose qui m'y pousse comme un appel. Et puis l'appel de collègues comme Mozart, c'est quand même extrêmement difficile d'y répondre.
Les deux, hein, Mozart.
C'est ça que je veux dire, de ne pas y répondre, c'est impossible.
Mozart,
de ne pas y
aller. Vous êtes connu apparemment en France, en Suisse, en Navarre et bien au-delà. Mais ce que vous ne nous avez pas dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est que vous avez confié bien des choses à Patrick Ferlat.
Oui, alors Patrick est un grand accoucheur de mots et de pensées.
Un maïoticien.
Ouais. Il a fait un livre qui s'appelle Les ailes de l'imaginaire, qui est aux éditions Slatkin. Je ne voulais pas que ce soit un livre sur Jean Lhermitte, ça ne m'intéresse pas, puis j'ai l'impression sinon de faire mes mémoires et que je suis mort. mais j'ai essayé de parler à travers un peu d'expérience, et puis surtout l'aventure de ces dernières années au Théâtre de Carouge, de l'aventure du Théâtre de Carouge. Et que ce qui est beau dans le livre de Patrick Ferlat, c'est qu'il a amené des regards, des contrepoints, des points, avec des gens, des hommes et des femmes qui ont participé à l'aventure du Théâtre de Carouge avant moi, et puis là maintenant dans l'époque où moi je suis amené à diriger cette grande institution. Et donc on alterne entre des regards de gens qui ont fait ou qui font ce théâtre là, et puis moi qui essaye de baragouiner un ou deux trucs sur un petit peu mon parcours et puis deux, trois choses qui me tiennent à cœur du théâtre. Mais encore une fois, c'est en toute humilité et en conscience qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. C'était après que Patrick a été d'une patience infinie, parce que moi je suis, comme je disais, je ne suis pas un auteur, je suis quelqu'un de plateau avec la représentation qui va renaître soir après soir. Et quand il y a quelque chose qui est arrêté ou figé, il y a quelque chose qui m'impressionne ou qui m'inquiète en disant, mais non, je voudrais changer tout le temps, moi. Mais on ne peut pas changer tout le temps un livre. À un moment donné, il faut arrêter quelque chose. Et là, il a fait, je trouve, un très joli travail, à la fois de choix et de synthèse, parce qu'on a eu énormément d'entretiens, de très longs entretiens. Il a fait une synthèse de ça, et puis de la recherche des gens qui amènent un éclairage particulier. Donc, c'est un livre que je recommande, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire, encore une fois, de ce magnifique théâtre, de cette magnifique institution qu'est le théâtre de Carouge, né en 1958, et puis des aventures que nous avons connues avec la reconstruction du nouveau théâtre, qui est le plus beau théâtre de Carouge du monde, et puis l'aventure de la cuisine, qui est notre théâtre éphémère. Donc c'est une façon de rentrer à l'intérieur, là aussi, de la machine, et puis du travail d'un directeur, et puis de metteur, quelqu'un qui aime le théâtre, et puis qui essaie d'en faire, quoi.
Malheureusement, on doit vous quitter parce que vous êtes sur le starting block pour Lausanne. Vous allez répéter. Les répétitions se passent bien ?
Oui, ça se passe bien. C'est les répétitions. C'est toujours un mano à mano, un combat pour essayer de pousser, d'amener plus loin, de donner confiance, pour dans toujours le souci de bien raconter l'histoire au public.
Merci Jean Lhermier.
Merci.
Bonne répétition.
C'est gentil.